Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons tous ensemble à cette journée d'études. Journée d'études donc qui a lieu en présentiel et en ligne. On espère qu'on va pouvoir tenir le présentiel encore un petit peu parce qu'à la BPI, on a d'autres journées d'études à venir, dont d'ailleurs une journée d'études la semaine prochaine sur la formation des professionnels des bibliothèques organisée par le service du livre et de la lecture. Peut-être que Jérôme en dira deux mots tout à l'heure. En tout cas, on se réjouit à la bibliothèque d'avoir pu organiser cette journée d'études qui aurait dû être organisée l'année dernière à Valenciennes. On avait prévu de partir en région. Bon, les conditions sanitaires de l'année dernière n'ont pas prévu de la tenir. Elle se fait donc aujourd'hui ici. Et elle réunit l'ensemble des bibliothèques existantes, puisque cette année, cette journée d'études est organisée avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Voilà, quelques petits éléments importants hein, avec la reprise épidémique. On vous demande vraiment de faire très attention et de respecter au maximum les gestes barrières. On a quand même tenu à ce moment de convivialité à l'entrée, parce que quand on arrive de loin, prendre un petit café en arrivant et se restaurer est vraiment quelque chose d'important qui fait partie de l'accueil. Mais bon, merci de faire très attention aux gestes barrières et au port du masque pendant toute la journée. Cette journée d'études vient à la suite du rapport de l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, du côté de l'Inspection générale des bibliothèques, qui fait suite donc à un rapport qui s'appelait « La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans les bibliothèques territoriales », rapport signé d'Olivier Caudron, qui doit être avec nous aujourd'hui. Il est où, Olivier ? Bonjour, Olivier. Et qui d'ailleurs va nous accompagner toute la journée. Ce rapport a été réalisé avec Juliana Riemann et avec Fabrice Vidcard. Ce rapport pose un état des lieux contrasté, hein, retraçant les changements, les évolutions, mais aussi les inerties relevées dans le paysage des bibliothèques, qu'elles soient territoriales ou universitaires. Afin de parvenir à un niveau de service accessible homogène, il faut en tout premier lieu s'intéresser. Pardon, j'ai un appel au même moment, mais c'est bon, j'avais mis le. Excusez-moi. Il faut bien sûr s'intéresser au fonctionnement de nos établissements. En effet, même si l'initiative individuelle a toujours sa valeur et est toujours importante, y compris dans nos équipes et pour répondre aux difficultés ou en tout cas à ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir accueillir au mieux les personnes en situation de handicap, il me semble que pour répondre aux attendus réglementaires qui sont de plus en plus importants et pour répondre à cette mission qui est la nôtre d'accueillir tous les publics, il faut maintenant s'organiser différemment. Les bibliothèques doivent donc se structurer. Structurer leurs services, former leurs agents et apporter ainsi une réponse adaptée à la question de l'accessibilité pour tous. Il faut bien sûr penser en amont notre organisation pour pouvoir être le plus efficace possible. Merci donc à Olivier Caudron d'introduire chaque table ronde à la lumière des préconisations de son rapport. Identifier comme les leviers de l'action la formalisation de la mission handicap, l'identification des bibliothécaires référents et la formation des équipes vont être les thématiques exposées durant cette journée par des collègues qui travaillent aussi bien en BU, en BM ou en bibliothèque territoriale. Et dans les bibliothèques territoriales, il y a également les bibliothèques départementales. Voilà, je suis vraiment ravie que nous ayons une journée d'études qui rassemble l'ensemble des collègues. Les ateliers de co-construction programmés cet après-midi sont également animés par des collègues qui ont des expériences à nous raconter. Ils seront donc axés sur le montage de projets visant à améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap. Le rapport interroge également l'action de la BPI en matière de handicap. Et au-delà de la co-construction de cette journée d'études, puisqu'on organise tous les ans une journée d'études en collaboration notamment avec nos collègues de l'ABF, le SLL et cette année avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la BPI s'est dotée d'un plan d'action triennal 2020-2022 que vous pouvez retrouver sur notre site, qui a été approuvé en conseil d'administration en novembre 2019. Et la coopération nationale est un axe fort de ce plan. Si l'année 2020 a été une année compliquée pour tout le monde, elle a donné lieu pour nous à une réflexion sur ce que peut être l'accompagnement, la formation, en tout cas le partage d'expériences, avec la mise en place de trois webinaires qui ont eu lieu l'année dernière et qui sont toujours disponibles en ligne. Essentiellement sur l'action culturelle, parce que c'était une question que nous travaillons en interne et qui était très importante à destination des publics en situation de handicap. Elle nous a permis de maintenir ce travail en coopération avec le territoire, parce que dans le cadre du plan handicap, la BPI a mis, dans le cadre de notre plan handicap, la BPI a travaillé sur l'exposition de Catherine Meurice, cette auteure de bande dessinée que nous avons accueillie l'année dernière à cette époque-ci pendant 3 mois, en mettant en place une visite audio décrite et interprétée en langue des signes, qui est toujours consultable sur le site de la bibliothèque. Nous avons organisé des entretiens littéraires pendant le festival Effraction, qui est un festival de littérature contemporaine, qui sont également interprétés en langue des signes et qui sont elles aussi consultables. Enfin, ces entretiens sont eux aussi consultables sur le site de la bibliothèque. Et nous avons une action particulière dans le cadre de la Journée mondiale des sourds, y compris d'ailleurs dans le cadre du festival Effraction. Nous avons rendu cette année notre festival de jeux vidéo, qui a lieu à la fin du mois de septembre, accessible. Et nous y avons également consacré une matinée d'études à la fin du mois de septembre dernier. Donc on s'est fait une priorité à la BPI de pouvoir rendre notre action culturelle la plus accessible possible. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore au bout, mais en tout cas, on renouvelle les expérimentations et les expériences à ce niveau-là. Cette volonté de pérenniser l'accès aux événements adaptés se retrouve également avec cette journée, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est disponible, elle se fait en même temps en ligne, elle sera disponible en ligne également après, et elle est bien sûr, comme les précédentes, elle bénéficie d'interprètes LSF, je salue les collègues qui sont avec nous, et de vélotypistes, et donc disponible ensuite sur le site pro de la bibliothèque. Avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais remercier l'équipe de la bibliothèque, la régie technique qui nous accompagne aujourd'hui, qui a tout organisé, la délégation à la coopération nationale et bien sûr le service lecture handicap avec sa chef de service Fanny Lemaire qui est avec nous et Yann Kobels qui l'accompagne. Et un remerciement aussi à Sylvie Bonnel qui chapeaute plusieurs services, dont le service lecture handicap, et qui vient nous quitter bientôt puisqu'elle change de poste. Voilà, je voulais lui la remercier pour l'accompagnement qu'elle a fait de ce service lecture handicap, puisque nous avons décidé de monter en charge et ce fameux plan qui a donné lieu à une réflexion globale importante et qui a été votée en conseil d'administration. Voilà, merci beaucoup Sylvie. Et bien sûr, merci Fanny, je l'ai dit. Voilà, je vais laisser la parole à Jérôme Belmont pour la suite des interventions.
Merci beaucoup, chère Christine Carrier, chère Odile Conta, chère Hélène Brochard, chère Olivier Caudron, mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis bien sûr très heureux d'ouvrir ce matin aux côtés de Christine Carrier, d'Odile Conta et d'Hélène Brochard cette journée nationale accessibilité et handicap en bibliothèque vers une organisation pérenne. Le sous-titre est important, on va le voir. Cette journée s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre de rencontres annuelles qu'organise chaque année le ministère de la Culture et la BPI. Je suis particulièrement heureux que ce soit associé cette année à cette rencontre, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et la commission accessibilité de l'Association des bibliothécaires de France, qui travaille sur de nombreux sujets avec nous. Je remercie très vivement Christine Carrier et l'ensemble de ses équipes. Elles ont été citées dans le propos final de Christine, donc je m'associe pleinement à l'ensemble de ces remerciements. C'est toujours un très grand plaisir pour le ministère de la Culture de travailler avec la Bibliothèque publique d'information. Et du reste, nous nous retrouverons, j'espère, très nombreux, pas plus tard que mardi prochain, pour les assises de la formation Bibliothèque territoriale, tous ensemble. Alors, la journée d'aujourd'hui intervient après de nombreux travaux qui ont été lancés depuis plusieurs années autour de l'accès à la lecture des personnes handicapées. Parmi ces travaux, je citerai une catégorie particulière de production très administrative qu'on ne cite pas toujours et qui seront quand même, je pense, au cœur de cette journée, celle des rapports produits par les services d'inspection générale au terme de missions de synthèse. Je vous préviens, mon intervention aurait pu s'appeler de l'intérêt public des rapports des inspections. Je vais essayer de le démontrer. Et j'espère que l'inspection y aura un hommage à la qualité du travail fourni qui est très important pour nous. Ces rapports sont le plus souvent irremplaçables déjà pour faire le point sur une situation donnée. C'est une première vertu, c'est toujours d'avoir un état des lieux national sur un thème donné. Ils sont tout aussi importants, ces rapports, pour les pistes d'évolution, ce qu'on appelle dans le jargon administratif les recommandations qu'ils proposent et qui constituent autant d'aiguillons pour l'administration centrale, mais pour nous tous, à vrai dire, pour nous aider à transformer la réalité. Et donc, je l'indique et je le redis, non, tous les rapports d'inspection ne finissent pas dans des tiroirs de bureaucrates indolents et paresseux. Oui, certains d'entre eux, certains de ces rapports, contribuent à faire notablement bouger les choses. Et j'espère qu'il en sera ainsi pour le rapport de 2021. Je prendrai un exemple concret à la fin de, et qui touche et qui intéresse nos sujets. À la fin 2016, trois inspections générales, l'inspection générale des affaires culturelles, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, ont mené une mission sur l'édition adaptée. Ce rapport a été remis fin 2016. Parmi les recommandations de ce rapport très important, figurait la nécessité de refonder en profondeur l'écosystème de l'édition adaptée, en créant, entre autres hypothèses, un portail national de l'édition accessible. Après un temps de maturation que certains trouveront probablement trop long, je veux bien le reconnaître, ce rapport est en passe de déboucher sur une réalisation qui pourrait changer la vie, je pense, de millions de nos concitoyens. En effet, le gouvernement a lancé au printemps 2021, donc 5 ans après le rapport, mais il n'est jamais trop tard, une étude de faisabilité pour la création d'un portail national de l'édition accessible et pour la définition d'un plan de production des documents adaptés. L'objectif de ce projet est de simplifier les démarches des personnes handicapées qui cherchent à repérer et à se procurer des documents accessibles, principalement des livres, mais pas seulement. Ce projet vise aussi à rechercher une meilleure efficience des processus de signalement et de réponse aux demandes de livres. Il s'agit aussi d'augmenter significativement l'offre de contenu, non seulement dans le cadre de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées, mais aussi dans le cadre d'une stratégie interministérielle pour le développement d'une offre commerciale numérique nativement accessible. Sous la houlette du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, ce projet interministériel mobilise pas moins de 7 ministères. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. D'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2021, les résultats de cette étude devraient être soumis dans ce cadre interministériel au gouvernement qui devra prendre des arbitrages politiques et budgétaires pour fixer et décider, en tout cas on l'espère, la création de ce portail à partir de l'année prochaine. Donc vous voyez, des rapports d'inspection peuvent changer fondamentalement la situation. Donc la journée d'aujourd'hui, on vous l'a dit et vous le savez, vous avez vu le programme, s'appuie sur un autre rapport, le rapport qui a été rendu en février de cette année par l'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche sur la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques d'enseignement supérieur, dans les bibliothèques territoriales. Ce rapport a été rédigé par Olivier Caudron qui va nous accompagner tout au long de la journée et assurer ainsi en quelque sorte le service après-vente du rapport. C'est très important, ce service après-vente du rapport, si je puis dire. Il a été aussi rédigé par Juliana Riemann et Fabrice Wittgar. Alors, il nous appartient aujourd'hui collectivement dans cette salle, mais au-delà dans l'ensemble de la profession, à réfléchir aux suites que nous entendons donner à ce rapport, justement pour que lui aussi transforme la vie des bibliothèques pour plusieurs années et la vie de nos concitoyens. Alors, parmi les recommandations nombreuses de ce rapport, plusieurs sont essentielles aux yeux du ministère de la Culture. Et vous allez retrouver dans ces objectifs essentiels aux yeux du ministère de la Culture le triptyque qui construit la journée. Formalisation, identification des référents handicap et formation. Alors pour nous, l'une des mesures effectivement les plus importantes proposées est la nomination de collègues qui, référents handicap, qui est un processus organisationnel qu'il nous faut mener le plus largement, si possible, dans les meilleurs délais. Alors le rapport propose cette systématisation, me semble-t-il, à chaque bibliothèque, si j'ai bien lu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre en œuvre dans chaque bibliothèque, je pense notamment à des petites bibliothèques rurales, cette préconisation du rapport. Néanmoins, c'est un point très important. Il nous faut avancer sur ce sujet. Et une des attentes que je forme personnellement au terme de cette rencontre, c'est que la discussion collective nous aide peut-être à placer le niveau, le seuil, au-delà duquel il est vraiment obligatoire pour une bibliothèque municipale d'avoir un référent handicap. Alors, le ministère de la Culture s'est d'ores et déjà saisi de cette recommandation dans le cadre des conventions de mise à disposition qu'il négocie actuellement avec un certain nombre de bibliothèques pour la mise à disposition de conservateurs d'État dans les bibliothèques classées. Dans le cadre de ces conventions 2022-2024, elles démarrent dès l'année prochaine, les bibliothèques auront l'obligation, d'ici la fin de la période, de s'être dotées d'un référent handicap. Nous pensons, je pense que les bibliothèques départementales sont d'accord avec nous, il est important que chaque bibliothèque départementale puisse avoir aussi un référent handicap. Pour les bibliothèques municipales non classées, je vous l'ai dit, pour nous, la question est de savoir où on fait passer la frontière, au-delà duquel la présence d'un référent handicap est vraiment indispensable. Je le dis tout de suite, ce n'est pas forcément un ETP à 100%, ça peut être une partie du temps d'un personnel de bibliothèque. Alors, pour que ces référents puissent avoir un rôle actif, puissent voir leur rôle reconnu dans les bibliothèques, il faut effectivement en amont que la bibliothèque ait réfléchi à sa politique en matière de handicap et l'ait formalisée dans le cadre d'un projet scientifique, culturel, éducatif, social, projet d'établissement, peu importe le nom. Mais cette étape de formalisation est très importante. Et du reste, j'en profite pour saluer le travail tout à fait remarquable qu'a indiqué Christine Carrier, qu'a fait la BPI pour la bibliothèque, pour avoir la chance de participer au conseil d'administration de l'établissement. J'ai eu la chance de lire ce document, la stratégie de la BPI, et je peux vous assurer qu'il est tout à fait remarquable. Et donc, je souhaite que la très grande majorité des bibliothèques puissent embrayer. Elles le font déjà, un certain nombre d'entre elles le font déjà. Dernier enjeu essentiel à nos yeux, la formation. Plusieurs recommandations du rapport sont consacrées à la formation, qui fera l'objet aussi d'un atelier et d'une table ronde ce matin, d'un atelier cet après-midi. Ce chantier de la formation rejoint une préoccupation majeure du ministère qui est la formation en bibliothèque territoriale. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous nous reverrons mardi prochain. Pas dans cette salle, mais dans cet établissement pour en discuter. Et bien évidemment, la formation liée au thème du handicap fera partie des chantiers que nous allons ouvrir avec l'ensemble des collègues pour les 5 ans à venir. Je vous renvoie au débat que nous aurons mardi prochain. Dernière recommandation importante, et j'en terminerai, l'accessibilité des systèmes intégrés de gestion des bibliothèques. 2022 verra la 4e édition du baromètre de l'accessibilité numérique en bibliothèque. On parlait en bon français, ce benchmarking est important. Néanmoins, je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense que nous devons trouver, inventer des systèmes pour accélérer effectivement la mise en accessibilité de l'ensemble des systèmes informatiques des bibliothèques. Le ministère est prêt à prendre à bras le corps ce sujet dans les mois à venir. Au-delà du baromètre, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour conduire un bibliothèque et éditeur de logiciels de bibliothèque à basculer sur des propositions de matériel et de services entièrement accessibles. Donc vous voyez, le chantier est très important. Je suis sûr que donc ce rapport de l'inspection générale trouvera aussi sa traduction, comme le rapport de 2016 sur l'édition handicapée. Je remercie très vivement Olivier Caudron d'accepter de nous accompagner pour mettre en œuvre son rapport, son rapport collectif, mais son rapport. Sa présence est très importante et je suis sûr que tous, collectivement, nous parviendrons à faire que plusieurs recommandations de ce rapport soient réellement mises en œuvre pour changer la vie de nos bibliothèques. Je vous souhaite une excellente journée de travail et vous remercie de votre attention.
Bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier pour son accueil Christine Carrier et l'ensemble des équipes de la Bibliothèque publique d'information, remercier pour la participation et l'organisation de cette journée l'ensemble des équipes du département des bibliothèques du ministère de la Culture et bien sûr Jérôme Belmont ici présent, remercier Olivier Caudron de sa présence et de son accompagnement, en effet, dans ce chemin avec nous, et remercier Hélène Brochard et l'ABF d'être aussi avec nous aujourd'hui. On l'a dit, je suis particulièrement contente d'être avec vous, puisque c'est un peu la première fois que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation participe à cette journée, et nous avons un rôle à y jouer très important, et donc je suis particulièrement contente de pouvoir être avec vous aujourd'hui. 37 500. C'est le nombre d'étudiants en situation de handicap qui poursuivent des études supérieures en 2019. C'est un chiffre qui représente 2% de la population étudiante, qui doit être appréhendé comme un minima, puisque beaucoup d'étudiants, c'est le chiffre des étudiants qui se sont fait connaître auprès des missions handicap des universités. Et donc, évidemment, ils ne représentent pas la totalité des personnes en situation de handicap. Mais ce chiffre, il a été multiplié par 4 depuis 2005, et d'un tiers depuis 2017. Il montre clairement la nécessité pour nous de se saisir dès à présent de l'enjeu que représente l'accessibilité pour l'enseignement supérieur. Il en va de la construction de l'égalité des chances pour accéder à l'enseignement supérieur, pour réussir ses études et pour s'insérer professionnellement dans la vie active. On observe aujourd'hui toujours pour les étudiants en situation de handicap une progression ralentie dans les parcours par rapport aux étudiants de la population générale, avec une surreprésentation en licence et une sous-représentation en master. On a encore du travail. Malgré tout, les écarts entre les populations générales et les populations en situation de handicap diminuent significativement et régulièrement depuis les 5 dernières années, ce qui est un très bon signe, et notamment grâce au renforcement du dispositif handicap mis en place et à l'adoption de schémas directeurs du handicap dans les universités. Les personnels de bibliothèque universitaire sont encore assez peu sollicités lors de l'évaluation collective des besoins spécifiques à chaque étudiant. Mais les services qu'ils peuvent rendre à ces publics sont nombreux et, de mon point de vue, essentiels, comme l'a montré le rapport réalisé par l'IGESR sur la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Ouvrir la bibliothèque pour un accueil inclusif, favoriser l'autonomie de ces étudiants par des aménagements qu'on construit si possible, renseigner l'usager et surtout lui donner accès à une documentation adaptée la plus large possible, sont encore des défis que nous devons relever en collaboration avec les acteurs du terrain. L'étude de faisabilité d'un portail national de l'édition adaptée et accessible, dont Jérôme a parlé, est actuellement en cours, comme il l'a dit, et je voulais souligner l'importance de la co-construction entre les ministères sur ce projet. Ce n'est pas si souvent qu'on rassemble autant de ministères sur un sujet aussi important. Et pour nous, c'est une étape absolument fondamentale vers la mise en place d'un véritable service au niveau national pour permettre l'accès à une documentation et à une édition adaptée pour le plus grand nombre. Dans la mise en œuvre de ce projet, il y a pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une coopération exemplaire entre les bibliothèques universitaires, mais aussi des opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment l'ABES, qui a un rôle fondamental pour le signalement des productions adaptées, et qui est du coup extrêmement impliqué dans ce projet, et les acteurs de l'édition scientifique publique, qui ont également un rôle important dans la mise en place d'une édition nativement accessible. Et leur expertise, ils apportent tous ensemble leur expertise pour alimenter ce projet et faire qu'il soit le plus pratique et le plus facile à mettre en œuvre ensuite sur le terrain. Le MESRI concourt en outre à la formation des personnels, dont Jérôme a parlé aussi et que nous partageons par le biais d'actions spécifiques à cette thématique proposées par les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, hein, qui sont sous une double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et comme nous aurons du coup l'occasion de le voir hein, dans cette journée, c'est une thématique très importante que celle de la formation. Enfin, le MESRI œuvre aussi à décloisonner autant que possible ses actions relatives aux questions du handicap en travaillant à inclure systématiquement des critères liés à l'accessibilité dans les politiques conduites sur le terrain. Par exemple, le consortium Couperin intègre ainsi dans sa dernière lettre de cadrage de négociation cette dimension de façon explicite. C'est quelque chose que nous avons demandé, qui était aussi quelque chose, une des recommandations du rapport d'Olivier Caudron et qui est d'ores et déjà mise en œuvre. De la même façon, les derniers appels à projets émis dans le cadre du Fonds national pour la science ouverte mettent en avant le critère de l'accessibilité. C'est très important pour nous de pouvoir décliner sur l'ensemble de nos actions et de mettre en œuvre ce critère de l'accessibilité. Comme vous le constatez, ces actions sont diverses et très riches sur le terrain. Nous allons le voir au cours des trois tables rondes qui vont suivre et au cours de toute cette journée, l'importance des actions sur le terrain, des acteurs qui mettent en œuvre l'accessibilité et dont les actions sont très riches. Et je voulais encore une fois remercier chaleureusement toutes les personnes ayant participé à l'organisation de cet événement et vous souhaiter une belle journée, jalonnée de discussions fructueuses et pleines de projets et d'avenir. Je vous remercie.
Bonjour à tous et à toutes. Je vais renouveler les remerciements qui ont déjà été faits à l'ensemble des organisateurs, intervenants, partenaires de cette journée. Je pense que malgré un contexte un petit peu fragile en ce moment, c'est quand même un plaisir de se retrouver aussi si nombreux en présentiel. L'attention sur les questions relatives à l'accessibilité et à la prise en compte des personnes en situation de handicap est un sujet central du travail mené par l'ABF depuis de nombreuses années, notamment à travers la commission Accessibib, devenue Accessibilité il y a plus de 2 ans, et dont je salue les collègues présentes, Françoise Martinelli et Hélène Cudzia, qui ont activement participé à la préparation de cette journée. L'ABF est une association professionnelle militante qui porte des valeurs fortes. Et si, dans le domaine du handicap, le militantisme reste nécessaire, nous défendons également la nécessité et le souhait de basculer d'un modèle militant, trop souvent associé à des individus, à un modèle intégré dans lequel les préoccupations autour de l'accessibilité sont partagées et portées collectivement à travers leur représentativité dans les projets de services, les organigrammes ou d'autres points qui ont été abordés précédemment par les collègues. Je ne reviendrai pas plus longuement sur le contenu de cette journée qui a été abordée avant moi, mais je souhaite également attirer votre attention sur la question des professionnels. Si nous sommes ici aujourd'hui pour évoquer l'accueil des publics, et il y a encore effectivement du travail à faire et à mener, n'oublions pas qu'il faut également penser à l'intégration de collègues en situation de handicap dans les équipes. Dans un premier temps, parce qu'il nous semble qu'en tant qu'établissement public, il est de notre responsabilité de montrer l'exemple et de respecter l'obligation d'emploi, de participer à l'effort collectif dans une démarche égalitaire et citoyenne, mais également car ces collègues ont des compétences à nous apporter et compétences qui ne se limitent pas à la question du handicap par ailleurs et qui peuvent tout à fait porter sur d'autres missions. Lors de nos réflexions préalables à la création de la commission accessibilité il y a 2 ans, il s'agissait de fusionner à l'époque les commissions illettrisme, hôpitaux, prison et Accessibib. Nous nous sommes interrogés et nous avons cherché ce qui nous réunissait et faisait sens à l'ensemble de ces problématiques. Nous étions tombés d'accord sur une phrase que nous avons reprise en présentation, une approche respectueuse des différences. Je conclurai donc sur cette phrase qui guide l'ensemble de nos réflexions et actions. Respecter les différences à travers leur prise en compte systématique, sans jamais sombrer dans une vision charitable ou misérabiliste, mais en y trouvant de quoi enrichir nos propres habitudes, réflexions et pratiques, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée.